créations graphiques sont partout. Dans la rue, les musées, sur votre smartphone, votre livre de chevet et j'en passe. Le but de ce podcast est de décrypter, de saisir la manière dont les marques et les créatifs entrent en résonance avec leur public. Au-delà des considérations esthétiques, nous souhaitons remettre en mots ce qui a été mis en image. Comment de l'idée passons-nous au sensoriel ? Comment de la sémantique passons-nous au visible ? La force des images est de rendre instantanément intelligible toute idée en se passant de longs discours. Pour cet épisode, nous accueillons Jacques Noël, qui est tapissier décorateur et dirigeant de la boutique Décor et Maison à Compiègne. Bonjour Jacques.
Bonjour.
Donc bienvenue dans La Potion, qui est le podcast d'Hermites. Donc dans ce podcast, nous invitons un dirigeant ou bien un créatif à nous parler de sa relation au graphisme et aux différentes formes de production visuelle. Notre but est de comprendre comment faire sens et provoquer l'essence du regardeur. Pour cela, chacun a sa petite potion. Nous allons alors tenter de comprendre aujourd'hui quelle est la tienne. Donc, on va commencer par la boutique et ton parcours. Donc, mais avant ça, je voudrais te poser une question. Quelle est la première image dans toute ta vie, ou peut-être celle qui t'a plus marqué ? Que ce soit une œuvre, une pub, ou une image à laquelle tu as été confronté dans ta vie et qui t'a marqué, qui te revient chaque jour, peut-être.
Chaque jour, non, sûrement pas. Mais là, tout à coup, c'est comme un flash. Je me revois tout petit dans une grande pièce en train de donner la main à ma mère, mais en ayant le bras tendu vers le haut parce que je devais avoir 3-4 ans. Et devant moi, il y a eu une image vraiment impressionnante, c'est qu'il y avait un ours blanc qui était debout avec les crocs, la gueule ouverte, et il faisait 5 mètres de haut, quoi, cet ours blanc empaillé. J'ai été hyper impressionné. De temps en temps, j'y repense, c'est juste une anecdote de petit mouflet, mais c'était du coup, c'est bizarre, quoi, maintenant de repenser à ça. C'est ça, une image qui m'a marqué. Ça n'a rien déclenché dans ma vie, quoi. Mais cet ours blanc, et je l'ai revu plus tard, et c'était un ours blanc normal, quoi. Il faisait pas 6 mètres de haut.
Et du coup, celui de Coca-Cola, je ne sais pas si tu te souviens de la pub.
Non.
La pub Coca-Cola avec les ours blancs, ça t'a...
Ah ça t'a ouais, pas... non, ça me dit... Non, tu vois
du le retour de l'ours blanc.
Non. Je vois, ça me dit rien.
Bah, tu regarderas.
Oui.
Du coup, est-ce que tu peux te présenter plus longuement ?
Oui, je m'appelle Jacques Noël, je suis tapissier décorateur, j'ai une boutique à Compiègne que j'ai reprise il y a 16 ans et je l'ai racheté, j'ai racheté le fond et enfin tout l'ensemble du magasin il y a 16 ans à un monsieur qui prenait sa retraite et qui était là depuis, pas lui-même mais son grand-père et son père, depuis 1884. Donc moi j'ai repris la suite. Et voilà. Et donc,
ça a toujours été une boutique d'ameublement et de décoration ou...
À cet endroit-là, non. Il y a longtemps, c'était un cinéma. Un des quatre cinémas du centre-ville de Compiègne. Il a été ouvert, construit, parce que la rue a été bombardée pendant la guerre. Donc il a été construit à la sortie de la guerre. Et il a été fermé. Pour devenir deux, trois magasins avant moi. Il a été fermé à la fin des années 70, mais je ne sais pas quelle année, je n'arrive pas à savoir précisément quelle année. Et puis ensuite, il y a eu un magasin de meubles, de literie, de canapés, et puis mon prédécesseur qui avait une petite boutique dans la rue piétonne et a eu l'opportunité de venir louer ce magnifique local. Ça fait 300 mètres carrés, et donc c'était sympa, quoi, parce qu'il y a aussi un grenier, mais qui est l'ancien balcon de ces cinémas,
cinéma,
qui
ouais.
avait balcon et orchestre, et le balcon, bah là, il ne manque que les fauteuils, c'est toujours un escalier, et voilà, quoi.
D'accord, donc toi, t'es là depuis quelle année, déjà ?
Ben, 2004.
2004, ok, et avec la reprise, je pense que l'offre a changé, parce que aujourd'hui, c'est combien de références de tissus
Alors, des tissus, j'en ai environ 15 000.
D'accord.
Environ 70 éditeurs de tissus, qui me proposent leur tissu et que moi j'ai en magasin en échantillon. Et donc les clients peuvent voir un choix énorme de tissus, d'ameublement
Pour donner un peu une idée, tu peux citer quelques éditeurs de tissus? On a le droit de faire de la pub, on n'est pas payé.
Alors si on a le droit, eh bien il y a Le Lièvre, il y a Pierre Frey.
Pierre Frey, j'ai eu l'occasion, il fut un temps, de visiter le showroom.
Oui.
Et de voir tous les tissus.
Les showrooms à Paris, ils sont tous réunis dans quelques spots comme ça dans Paris. Bon, ils sont comme les marchands de voitures, quoi. Ils se mettent les uns à côté des autres. Ça, c'est malin parce que au-delà de la concurrence, ça va drainer des gens. Les gens viennent de plus loin parce qu'ils savent que s'ils n'ont pas chez l'un, ils trouvent chez l'autre. Mmh. On fait pas 50 bornes pour aller voir un éditeur, mais si tu sais que dans une même rue, il y en a 20, là, t'es sûr. Donc, ça va drainer beaucoup plus de monde. C'est malin de faire comme ça. Mais donc, il y a Pierre Frey. Pierre Frey, Le Lièvre, Nobilis, Toile de Mayenne, Canovas, les Anglais, Sanderson, Manuel Canovas. Et en fait, au-delà de ceux-là, par exemple, chez Pierre Frey, il y en a d'autres, comme chez Le Lièvre, ils rachètent de temps en temps un éditeur, et donc ils ont tendance à faire du regroupement, mais tout en conservant l'identité de chacun des éditeurs historiques. Ouais. Et donc voilà, mais à force, oui, ça fait, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup.
Et là, c'est des éditeurs essentiellement européens que tu nous as donnés ?
Oui, c'est
parce qu'historiquement,
essentiellement européen. Mm-hmm. Bah, historiquement, de toute façon, il n'y avait pas de Chinois il y a 50 ans plus, quoi. Donc oui, il y a des maisons qui ont 200 ans. Toile de Mayenne, c'est 1806. Ils sont à Mayenne, dans la Mayenne, sur la Mayenne d'ailleurs. Depuis 1806, quoi, dans une abbaye cistercienne, le site est magnifique. Et puis les autres, que ce soit Pierre Frey ou Le Lièvre, etc., c'est des maisons anciennes, parce que chez Le Lièvre, on a des soirées lyonnaises qu'ils ont rachetées, parce que c'est des petites boîtes qui ont quand même du mal à survivre. Et parce que quand on vend des tissus, des soies brodées à 400 euros le mètre, quand on a des rideaux à faire ou un siège, hein, et c'est quand même particulier, c'est du très beau, c'est ce qui se fait de mieux en fait, c'est ce qui se fait de mieux. Et donc il y a du français, mais il y a de l'italien, il y a des anglais, il y a un petit peu d'espagnol, il y a des allemands chez Jab, par exemple, il y a ZR... Il y en a beaucoup, quoi. Il y en a beaucoup. Et moi, je suis très, très content, très fier d'avoir autant de tissus. Le choix est énorme. On sait qu'on trouvera quelque chose. Celui qui ne trouve pas chez moi, c'est qu'il ne sait pas ce qu'il cherche.
Je pense. Avec 15 000 références, c'est sûr. Oui. Bah, du coup, ça m'amène à cette première question. Tu disais que c'est quand même une offre qui, même si tu as des choses abordables, qui est plutôt...
C'est haut de gamme.
C'est plutôt haut de gamme.
Oui, oui, oui.
Du coup, c'est quoi ta persona, ta cible, ton public cible, en fait?
Ma clientèle, c'est à 90% des particuliers, déjà. Très peu d'institutionnels, très peu d'hôtels, de mairies et d'entreprises. C'est donc des particuliers qui ont le goût des belles choses. Et évidemment les moyens, quoi. Donc mais ce n'est pas délirant, mais parce que je suis toujours là, donc c'est que ça fonctionne. Mais c'est vrai que il y a des tissus, la moyenne, si je devais donner une moyenne de coût de tissu d'ameublement, c'est 100 euros le mètre dans la laisse du tissu, c'est-à-dire en 140 de large. Donc, pour faire un siège, il faut un fauteuil, il faut 1 mètre, 1 mètre 10. Donc voilà, ça c'est pour le prix du tissu qu'il faudra mettre dessus. Après, si on veut du très très beau, il y en a d'autres. Mais les tissus les plus chers sont des soies brodées qui sont magnifiques, mais qu'on ne met pas chez soi. Qui sont magnifiques dans des châteaux, dans des musées, ou chez des gens qui vivent comme dans un musée ou dans un château.
D'accord. Après, on parle de ce public cible. Là, j'ai des petits souvenirs qui me reviennent en tête. Et comme je pense qu'il y a très peu de chances qu'ils tombent sur ce podcast, Tu sais qu'il y a des gens un peu connus qui sont passés dans le coin ou...
Oui, oui, il y en a. Oui, oui, il y en a, il y en a. Oui, oui.
Oui, oui, c'est, tu restes assez silencieux là-dessus.
Oui, c'est, ben, oui, oui, oui.
C'est confidentiel. C'est
je suis... Comment dire? Oui, je vais chez mes clients, je vais dans leur chambre, je vais dans leur salon, et je, du coup, je suis d'une absolue discrétion. Voilà. Et quand quelqu'un vient me voir en me disant « Ah, chez Madame Martin, vous avez fait des rideaux, je veux les mêmes », ben là, ça va être difficile, quoi. Et une fois, je me souviens avoir dit « Mais non, je vois pas... » Je vois pas, et bon, parce que si Madame Martin, elle est venue me voir, c'est qu'elle voulait des rideaux un peu différents des autres, quoi. Donc, voilà. Et évidemment, Madame Martin est un nom
de substitution.
Non,
c'est ça.
Mais donc, tu parlais d'une actrice connue. Voilà.
Voilà. Tu n'as pas d'imitation.
Je ne saurais pas l'imiter. Là.
D'accord. Bah, du coup, tu as un peu répondu à la question, mais je pense que je peux la reposer parce qu'il y a d'autres choses à dire. Qu'est-ce qui fait que ces clients viennent ou reviennent vers toi, en fait? Parce que outre l'offre en tissu, il y a un certain savoir-faire, en fait. Et un héritage...
Ce qu'on va trouver chez moi, c'est ce qu'on ne trouve pas ailleurs. Donc, j'ai des clients qui sont exigeants, à tel point que qu'ils se feront rembarrer s'ils vont dans une boutique ordinaire, quoi. Donc le client Mercedes, c'est pas le même que le client Skoda, et le client Rolls, c'est pas le même que le client Mercedes, et ils s'attendent en venant chez moi à ce que s'ils sont déjà venus, je les reconnaisse, etc. Il y a un peu de il faut être un peu aimable, etc. Et ça s'accorde bien avec moi parce que j'aime bien les gens et puis j'aime pas dire non. Donc je me décarcasse toujours pour réussir à faire le mouton à cinq pattes, à leur trouver le...
Oui, c'est ça.
Et puis je ne fais que du sur-mesure.
C'est, en fait, c'est aussi... on y vient, du coup, sur cette question du positionnement, c'est aussi... Parce que, du coup, on peut séparer en deux grandes familles les types de... Les deux types d'offres en ameublement et en décoration, tu as les grandes enseignes qui,
oui.
Voilà, et
oui, moi c'est pas
évidemment,
du
on
tout.
A compris que c'était pas la même chose, mais oui. Du coup oui, là on a d'un côté l'illusion du dans certaines enseignes de la personnalisation, en fait, où tu peux, voilà, tu crées avec un conseiller ton intérieur, etc., mais en fait tu es très limité par l'offre, et ça, on n'en a pas forcément conscience.
Dans une grande enseigne, on est conseillé par un commercial.
C'est ça.
On n'est pas conseillé par un décorateur ou par un conseilleur. C'est-à-dire, moi, je suis un facilitateur. C'est-à-dire que je vais aider les gens à exprimer ce qu'ils ont un peu en tête, et c'est vraiment pas toujours facile. Ce qu'ils ont en tête et ce qu'ils aiment, et voilà. Je me souviens d'une cliente, une dame qui vient un jour et qui me dit, Monsieur Noël, dites-moi ce qui est beau. Oh là, dites-moi ce qui est beau.
Je ressors mon livre de Kant.
Ouais,
le beau.
C'est ça. Et je lui dis, mais comment ça, y a ce que vous trouvez beau, vous, et voilà. Elle me dit, elle était vraiment agacée. Elle me dit, mais vous êtes professionnel, vous savez ce qui est beau. Et donc, je lui dis, mais vous aimez le rouge ou le bleu, et qu'est-ce qui est beau, et moi, je ne sais pas ce que vous aimez. Ah, mais enfin bon, tu vois le truc, c'est compliqué. Il faut leur faire exprimer et ce qu'ils veulent et ce qu'ils aiment. Et c'est vrai que quand quelqu'un entre et veut des rideaux ou refaire un siège, il y a des questions d'emblée qui se posent et auxquelles il faut qu'ils répondent, sinon moi je peux rien pour eux. Si quelqu'un entre et veut des rideaux et ne sait pas s'il veut du velours, de la soie, du lin, de l'occultant ou pas, c'est vraiment vraiment basique. Quand on vient pour me demander un canapé, ma première question, c'est: est-ce que c'est un canapé de détente ou de conversation? Alors parfois, les gens, canapé de conversation, c'est qu'est-ce que c'est ?
Ben oui. Ça, c'est des choses qu'on a un peu perdues, je pense, avec la standardisation.
Mais c'est ça. C'est-à-dire que maintenant, on n'a plus tellement... Dans les petites maisons fonctionnelles des gens du français ordinaire comme toi et moi, on n'a pas un salon de réception et un salon pour la télé. On a un salon qui fait tout. Et du coup, ma première question, quand quelqu'un vient pour un canapé, pour se renseigner pour un canapé, c'est est-ce qu'il est devant une télé ? Ah, je sais si c'est un canapé de détente ou un canapé de conversation. Le canapé sur lequel on se tient droit et on tient sa tasse de thé et on discute autour d'un guéridon. Voilà. C'est pas du tout la même chose qu'un canapé sur lequel on va se vautrer tout le samedi après-midi pour faire une sieste. Et donc, voilà. Et les gens, il faut qu'ils m'expliquent ce qu'ils aiment et combien il y a de personnes chez eux. Et voilà. Et c'est un travail de décorateur. Et donc j'ai oublié ta question du coup, les gens qui savent déjà ce que c'est qu'un tapissier décorateur et quand ils ont besoin de rideaux ou de faire refaire un siège, déjà quand ils ont des sièges que l'on peut refaire, ils les ont pas achetés chez Confo, But ou Ikea, parce qu'il n'y a pas d'affect avec ces meubles-là. C'est-à-dire que quand on a acheté un fauteuil chez Ikea, quand on en a marre ou quand il est défoncé, on le pose sur le trottoir. Alors que là, les fauteuils de mes clients sont des sièges qui entrent dans le patrimoine d'une famille, ou qui en font partie déjà, et donc on va leur refaire, on va comme la toiture de la maison, quoi, on l'entretient et on le refait, parfois dans le tissu d'époque, en respectant le style du siège, ou parfois en redonnant un look moderne à un siège ancien, parfois en refaisant une patine, etc. Il est arrivé souvent qu'une vieille dame vienne avec sa petite fille et elle lui donnait un cabriolet Louis XV ou un fauteuil Louis XVI. Elle lui donnait et elle lui offrait la réfection du siège parce qu'il était défraîchi et la petite ou la jeune femme choisissait un tissu très moderne pour remplacer un vieux rose ou un verre bouteille qui était antédiluvien, quoi. Et donc on va essayer de proposer des choses dans l'esprit de ce que veulent faire les gens.
En fait, c'est tu touches à des sujets qui sont importants. Moi, si j'ai décidé aussi de m'entretenir avec toi aujourd'hui, c'est parce que on s'intéresse beaucoup aux marques en fait qui soit innovent, soit transmettent un héritage et une histoire qui, au-delà d'essayer de dégager une image pour combler un vide, essaye de transmettre vraiment un savoir-faire ou proposer des choses concrètes. Toi là, tu touches aussi à un sujet qui est actuel, qui est celui de l'écologie aussi. Parce que là, quand tu parles d'IKEA, que tu changes ton meuble tous les deux ans parce que c'est pas durable et qu'en fin de compte, ça n'a rien à voir avec un meuble que tu vas garder des décennies au sein d'une famille, voire plus. Il y a aussi quelque chose de cet ordre.
Oui, c'est-à-dire que moi, quand je fais des rideaux, quand je refais un siège, les gens mettent un prix certain et veulent garder une demi-vie en général. On fait les rideaux à 30-40 ans et on les refait quand on prend sa retraite, en disant « c'est la dernière fois que je l'ai fait ». Donc en fait, on choisit, et c'est un vrai travail, un costume qu'on se fait faire sur mesure, on le garde plus longtemps qu'un costume qu'on achète chez Jules. Parce qu'on l'a choisi, il va bien, c'est de la qualité et ça dure longtemps. Et c'est l'objectif, c'est la mentalité des gens. Mais par ailleurs, il y a aussi dans notre société, depuis qu'on est né, on voit à la télé que le vrai bonheur, c'est acheter pour jeter, c'est consommer. Alors consommer du pain, ok, mais acheter pour jeter des vêtements, des chaussures, etc. C'est surtout valable pour les vêtements, mais c'est valable aussi pour la déco. Un fauteuil, des rideaux, etc. Et du coup, acheter pour jeter, ça c'est évidemment pas du tout ici que ça se passe, quoi. Ici, on va mettre un prix, mais ça va être plus beau, plus confortable et plus durable. Alors oui, par ricochet, c'est plus écolo.
Bah, même... rien que je vais même pas jusqu'à l'étape où tu le jettes, même dès le début en fait, les carcasses par exemple qui sont faites, que tu proposes neuves par exemple, ça, je pense que c'est quand même plus responsable que dans les circuits d'IKEA, etc. On en parlait avec Clément Daché qui on a soulevé le problème, tu sais, du bois français qui était acheté par les Chinois, oui, pour être transformé à, ouais, à l'étranger et pour être revendu, ouais, en France. Ouais, ouais. Je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre aussi.
Là, moi, je vends des carcasses de sièges, et je les achète dans les Vosges. C'est dû être français, fait par des petits vieux artisans français. Et tant qu'on leur achète, il y en a encore. Et on peut trouver des belles carcasses de sièges classiques, hein, pour la plupart. Mais il y a du club, il y a des tas de choses. Et il y a un vrai gros catalogue. Et oui, là, c'est un peu vertueux, quoi. Parce que c'est pas de l'aglo, c'est du vrai bois, c'est du hêtre, d'arbres qui ont été plantés pour ça dans nos forêts. Et voilà, et c'est de la qualité, et là c'est absolument durable. Et quand je fais un siège neuf comme ça pour des clients, ça va intégrer leur patrimoine. Il sera jamais jeté, il sera refait dans 40 ans, regarni. Mais la carcasse, s'il faut un jour la recoller, très bien. Si elle a pris des s'il y a eu des vers dans un pied, ben on va pouvoir refaire un pied, parce que je travaille aussi avec des ébénistes.
Et ça, j'allais te poser la question, ça englobe quel autre métier, la boutique, il y a aussi des couturières, etc.
Alors, oui, on pourrait dire que globalement, dans la boutique, on va pouvoir faire appel, ou en tout cas à plusieurs corps de métier. Il y a du garnissage de sièges, de la confection de rideaux et de stores, du paillage et du canage, qu'est-ce qui me manque, je vends de la peinture et du papier peint, donc on va pouvoir aussi donner des bonnes adresses de peintres pour s'occuper de ça, peinture et papier peint, et puis ébéniste, doreuse en l'occurrence, pour refaire des dorures sur des cadres de miroirs ou de tableaux, et puis de sièges aussi, parce qu'il y a des sièges dorés. Et voilà. Voilà, c'est... Oui, c'est... Et ensuite, plus ponctuellement, une fois j'ai eu à remettre en état un baromètre très ancien, et il fallait retrouver et refaire un verre bombé, il fallait le réétalonner, donc il y a du mercure, des fils, il faut faire appel à différents corps de métier, quoi.
Ils sont venus chez toi pour ça? Ah ouais, parce que du coup c'est, oui, quelque chose qui est assez grand, non?
Oui. C'est pas, oui, ça fait, il faisait moins d'un mètre de haut, mais
ouais, quand même.
En bois, et alors comme il était infesté, c'est-à-dire il y avait des bestioles dedans, mais on peut pas y toucher parce que ça datait de Louis XIV. Il est pas question de mettre des produits. Donc il a été, je sais plus, 3 semaines ou 1 mois sous anoxie, c'est-à-dire sous vide d'air. Il y a plus d'oxygène, les bestioles, elles finissent par décéder. Et puis il fallait, on avait fait appel à plusieurs corps de métier, rien que pour une pièce, quoi.
C'est quoi les commandes les plus insolites que t'as eues?
Ça, c'en était une, par exemple. Une fois, il y a un monsieur qui est venu et qui était revenu de Chine avec une magnifique toile un tableau avec des personnages, tout plié dans un sac, et personne ne voulait lui faire le cadre. La toile faisait à peu près 2 mètres sur 3, et il voulait mettre ça chez lui. Et personne ne pouvait lui faire un encadrement. Et puis, on en parle, mais je lui dis, moi je peux vous faire un encadrement. Je vais faire un cadre et on va fixer la toile dessus. Il n'y aura pas d'encadrement, mais il y aura un support pour cette toile. Et je lui ai fait, Et je lui ai fait, après, le truc, c'était de transporter ce cadre. Et je lui ai fixé sa toile dessus, puisqu'il s'agissait, en fait, de gainer un cadre avec sa toile, quoi, et agrafer tout autour. Mais c'est vrai que les pros qui font ça voulaient pas se risquer à faire ça, quoi. Ça, c'était tout à fait, oui, insolite, quoi. Mais bon, des choses insolites, c'est courant quand même, quoi.
Ouais, parce que moi, je me souviens, la première chose qui m'a fait peut-être rire, hein, c'est les prix Dieu avec du tissu, je sais pas, Jean-Paul Gaultier.
Avec des petits anges. Et ouais, ça c'était rigolo, ouais, un prix Dieu. J'en ai fait plusieurs des prix Dieu et à chaque fois c'était dans des tissus un peu louf comme ça. Ouais. Très rigolo, provocateur et tout ça, ça j'aimais bien.
Ouais. D'accord. Bon, est venue l'heure du portrait chinois. Il faut y aller du tac au tac. Hein.
Ça va pas être facile.
Alors, le premier, si tu étais un animal, ce serait ? Ou toi, ou la boutique en général, plutôt, peut-être. Je pense qu'on va parler au nom de
une loutre marine.
D'accord. Une explication ?
Non. Parce que c'est sympathique, intelligent et super souple. Super souple.
À l'image de
et
la
rapide.
Boutique.
Voilà. Oui, voilà. Moi, j'aime dire toujours oui. Et du coup, on m'apporte souvent des choses insolites, ce qu'on disait juste avant. Et donc, il faut que je trouve des solutions. Et quand il y a une vieille dame qui vient me voir en me disant « j'ai cassé ma table de cuisine, où est-ce que je peux trouver une table de cuisine ?» Je dis « mais avant de la changer et avant que je vous en vende une, peut-être qu'on peut la réparer. » Et je lui ai réparé sa table, elle était ravie. Et c'est pas quelque chose que je fais tous les jours, quoi. Mais je sais bien que c'est possible de le faire, donc je vais pas lui vendre une table neuve alors que je pouvais réparer sa table et elle était contente.
D'accord. Alors, si tu étais un pays, ce serait.
Un pays ?
Oui. Du coup, ce serait peut-être, je sais pas, la Russie pour contre l'obsolescence programmée.
Ah, si j'étais un pays, non, je serais la France.
Ah non, c'est interdit ça.
C'est interdit ?
On dit tous la France.
Alors les Pays-Bas. Les Pays-Bas parce que ils ont un style de vie qui me va bien, quoi. Et voilà, et j'aime bien le goût d'avieux et j'ai des sabots pour aller au jardin.
Plus compliqué si tu étais un plat.
Un plat.
Ou la boutique, hein, je dis si tu, mais je parle en général.
Un plat, un boboon.
Pourquoi ?
Parce que il y a différentes choses dedans, que c'est un plat asiatique et que c'est quand même assez raffiné. La cuisine asiatique, elle est quand même très très raffinée. Et le boboon, c'est un plat tout simple, mais qui est quand même super bon.
Très bonne réponse. Si Décor et Maison était une célébrité.
Laetitia Casta.
Un peu facile, mais j'accepte. Hein. On aura compris. Si tu étais un livre. Je dis tu encore une fois. On va dire si Décor et Maison était un livre.
Alors là, il me vient Le Monde selon Garp, mais j'ai pas trop d'explications.
On cherchera l'explication.
Lisez-le.
Voilà. Si Décor à Maison était une couleur.
J'ai envie de dire blanc parce que c'est la somme de toutes les couleurs. On croit toujours que le rouge est la couleur qui excite, mais c'est le blanc en réalité, puisque c'est la somme de toutes les couleurs.
Merci de ne pas avoir dit le bleu. Et pour finir, si tu étais, enfin, si Décor à Maison était une œuvre, ce serait
Ronde de nuit de Rembrandt. Plein de personnages, tous avec une histoire et une grande toile comme ça. Et ouais.
Très bien, parfait. On va revenir un peu là sur la boutique. J'aurais aimé savoir. On a un peu abordé la chose tout à l'heure par rapport à ces marques qui essaient de créer une image peut-être des fois qui ont plus encore besoin parce qu'il y a certains vides derrière là, on est dans un cas où décor et maison, c'est vraiment un savoir-faire avant tout. Je voulais savoir comment évoluer l'identité, en fait, en l'occurrence, le logo en fait, de la boutique. Je sais qu'on a travaillé dessus il y a quelques temps.
Oui.
Est-ce que la version qui était sensiblement la même, hein, c'était une refonte qu'on avait fait, est-ce que c'était le même je sais pas. Si... D'ailleurs, est-ce que la boutique s'est toujours appelée Décor et Maison?
Oui.
Depuis
1884.
Ouais.
Ouais.
Et il y avait...
Mais à l'époque...
Il
n'y
avait pas forcément le logo, c'était une écriture.
Je ne me souviens pas du logo,
non.
En fait.
Non, mais je ne sais pas, le logo, les archives...
Il n'y a pas... Le logo, c'est plus une identité visuelle qu'un logo.
Ouais.
Parce que, au même titre que Renault, Peugeot, Citroën, quoi. Là, c'est écrit décor et maison
dans une
police un peu CG Times. Et donc, voilà, c'est ça. Écrit en rouge, sur fond blanc. Et voilà. Donc...
historiquement, c'était la règle de toute façon pour tous les artisans, etc. Il y avait pas cette question qui se posait, mais après, on va dire, dans cette société un peu plus, on va dire, de consommation, où il fallait se démarquer par rapport à la concurrence, je vais parler surtout à partir des années 70-80, donc tu n'étais pas encore là, tu étais tout bébé. c'était déjà ce décor et maison, tout simplement.
Oui, c'était ça. C'était une petite boutique dans la rue piétonne, et ensuite c'est devenu une grande boutique ici, mais visuellement...
Ressens ce besoin, par exemple, de dégager, peut-être de travailler cet aspect, ou est-ce que c'était déjà venu quand tu vois, par exemple, ces enseignes où c'est très pensé, est-ce que tu penses que... C'est pour ça que je parlais de vide aussi des fois derrière, parce que quand on essaie de créer aussi une identité, on essaie de raconter une histoire, de créer un univers, est-ce que tu penses que pour ton cas ou pour toute une série d'artisans ou de boutiques qui ont vraiment un savoir-faire et un contenu riche, en fait, qui peut-être parle de lui-même. Est-ce que toi, tu as déjà ressenti ce besoin de travailler cette image ou pas?
Pas vraiment.
Parce que toi, c'est de la renommée qui fait aussi la boutique. C'est bouche à oreille, etc.
C'est tout à fait ça.
C'est deux positions différentes, en fait.
Oui, j'ai essayé de faire de la publicité, par exemple. J'en fais un petit peu régulièrement, mais j'avais essayé quand j'ai repris de faire de mettre pas mal d'argent dans de la publicité. En fait, ça ne rapportait rien. J'ai fait du boitage aussi pendant une journée. Dans une ville à côté, j'ai mis dans toutes les boîtes mon prospectus. Et il y en avait plus de 300, c'était un petit bled, mais avec un fort potentiel. Et en fait, j'ai vu personne.
C'est surtout, je pense que c'est pas adapté à ta cible aussi. Parce que du coup, quand tu veux cibler par la publicité, c'est pour une cible qui va vraiment se concentrer sur les prospectus, etc. Alors que toi, c'est une clientèle plutôt haut de gamme, du coup.
Oui.
Du coup, elle est pas aussi sensible à la publicité qu'une autre.
Oui, je suis d'accord. C'est effectivement, et c'est pour ça que la communication, c'est difficile de bien communiquer, choisir son média. Et donc, oui, c'est pas évident.
D'accord. Du coup, ça c'est intéressant que tu abordes ce mot de média avec l'avènement du numérique. Est-ce que tu penses que... Enfin, déjà, toi, comment tu t'inscris dans ces nouveaux modes de communication? Est-ce que tu penses que toi, ça t'apporte, ou est-ce que ça nuit, par exemple, à contrario aux boutiques authentiques?
Je vois pas comment ça pourrait nuire, mais il faudrait que j'aie du temps et peut-être plus d'appétence pour ça. Ne serait-ce que pour faire vivre un site internet, c'est pas compliqué, mais je suis à fond dans mon boulot avec la tête dans le guidon. Et du coup, je ne prends pas le temps de faire vivre. Alors, j'ai une page Facebook, j'ai un compte Instagram, voilà, mais il faudrait que je m'astreigne à tous les X jours, une fois par semaine peut-être, je ne sais pas du tout à déterminer, mais à mettre des nouvelles, à faire vivre ça. Et ben oui, je suis pas tellement comment dire, fan de d'y passer du temps. Le truc, c'est que bon, je suis tout seul, mes journées sont chargées, et du coup, je néglige ça, tout en sachant que c'est mal. C'est mal, c'est pas bien. Mais oui, ben, je fais comme ça, quoi. Alors de là, le sous-traiter, il faut voir. Mais c'est vrai que petit à petit, tout le monde dit qu'il faut communiquer sur les réseaux sociaux, patati patalaire, mais oui, je suis pas sûr que ça rapporte vraiment des likes, mais est-ce qu'on peut s'en affranchir, s'en abstenir? Alors là, je ne sais pas.
Oui, enfin, il y a deux, c'est possible, mais après, en général, c'est intéressant ce que tu soulèves, parce que le problème, c'est qu'on voit pas la finalité des réseaux sociaux, parce que en général, on veut, peut-être comme on a pu le faire avec les sites, se dire « Oh, il faut que je le fasse parce que tout le monde le fait », tu vois. Alors qu'en général, il faut vraiment... Les réseaux sociaux, c'est juste une porte d'entrée dans un tunnel de vente. Voilà, c'est des choses qui sont pas très jolies à dire. Mais quand c'est...
Il faudrait mieux avoir un site marchand qu'une page Facebook.
C'est dans ce trajet là en fait. Avant, les sites internet pouvaient se suffire à eux-mêmes, tu vois, voilà. avec le travail sur le référencement, etc. Et maintenant, c'est vrai qu'il y a les réseaux sociaux prennent tellement de place et le référencement est devenu tellement compliqué qu'en fait, on est obligé de passer par les réseaux pour faire vivre un site, etc. C'est le tunnel de vente en fait, donc voilà. Voilà, je pense qu'on va élargir sur l'avenir. Et j'aimerais savoir, comment vois-tu le secteur de l'ameublement dans les 20 prochaines années?
Alors, le secteur de l'ameublement, c'est pas tellement moi, parce que le secteur de l'ameublement, moi je suis
de la décoration. Je vois ce que tu veux dire.
Différent.
Oui. Ou dans les pratiques même des gens dans leur parce que tout à l'heure j'ai oublié d'en parler tu parlais des gens qui venaient te faire des demandes. Est-ce que par exemple tu as des chineurs qui viennent et qui te demandent de regarnir, ou en général
c'est
les gens
arrivé.
Qui vont
c'est déjà arrivé en effet. Le truc, c'est que quand un chineur vient me voir en me demandant de regarnir une carcasse, un vieux fauteuil qu'il a acheté 15€ dans une brocante pour le revendre 30, c'est juste ridicule. Mais en fait, s'ils ont poussé la porte du magasin, c'est que déjà c'est pas pour le revendre 30, mais ils se rendent compte que ils ont déjà une idée derrière la tête de à qui et combien ils vont pouvoir le vendre. Et quand ils voient le coût du mètre de tissu qui va être nécessaire et du temps à passer, ils se disent « Ouais, mais du coup, je fais plus mon beurre, donc voilà. » Mais ça arrive de temps en temps. Mais les chineurs, ils vont vouloir, tout comme d'ailleurs les antiquaires, ils vont vouloir un minimum d'investissement, et du coup ça passe pas, quoi.
Ah, parce que je pose en fait cette question parce que on en a discuté avec Clément Daché avec le contexte actuel où on a pris quand même un peu conscience que de consommer moins, c'était pas forcément plus grave, et il y a le développement du do it yourself en fait, et je voulais savoir si toi tu penses que étant donné que le bricolage, on en discutait aussi avec la cuisine, c'est l'un des deux hobbies préférés des Français, est-ce que tu penses que les gens font déjà des choses eux-mêmes? J'ai vu des gens regarnir eux-mêmes. Bon,
oui.
Ça t'aurait fait pleurer, j'ai vu des choses.
Oui, mais c'est ça, tu parlais de la cuisine, mais ça revient au même.
Ouais.
On adore cuisiner, on prend des cours de cuisine, il y a plein d'émissions de cuisine, etc. Des bouquins, n'en parlons pas. Ça n'empêche pas qu'on va quand même au resto. Et donc il y a le plaisir de faire, mais
on va moins au resto aussi.
Ouais, peut-être, je sais pas.
Si on va moins. Et est-ce que du coup dans tes futurs projets par exemple, est-ce que tu te verrais par exemple peut-être aussi dans ce désir de transmettre aussi un héritage, est-ce que tu te verrais faire des ateliers pour alors, d'initiation.
On me demande régulièrement, voilà. On me demande régulièrement, mais j'ai un métier, moi, j'ai pas le temps. Non, mais c'est ça, hein, c'est ça. Les gens qui me disent, ah, oh, bah, j'ai, il y en a qui me disent, ah, oh, bah, je prends des cours à tel endroit, etc. Et, ah bon, ça fait combien de temps que vous êtes sur le fauteuil? Bah, 7 mois. Moi, quand j'annonce 4 semaines, on me dit, ouais, c'est bien, ça va. Mais j'annoncerai 3 mois ou, bon, on me dirait, c'est trop long, quoi. Mais les gens, quand ils vont prendre des cours, l'objectif du professeur, c'est de gagner sa vie quand même. Et donc, c'est pas que les gens aillent vite, mais c'est de leur faire refaire en leur disant, ah, bah, là, tes clous, ils sont pas posés bien droit, attends, faut recommencer, et naninana, comme ça, ils repayent un cours. Et voilà. Et moi, j'ai pas le temps.
Mais pas forcément pas pour donner des cours, c'est pour aussi peut-être. Parce que ça, je pense que c'est aussi un bon moyen de communiquer, c'est aussi peut-être de montrer un peu les coulisses. Parce que moi, j'ai été par exemple chez Clément Daché, dans les établissements Daché, j'ai été étonné. Le showroom est assez petit en fait. Et derrière, il y a une surface incroyable de stock de bois et on n'en a même pas conscience ni connaissance sur le site ou rien du tout, sur le showroom, rien du tout. Et j'ai vu des choses incroyables. Et après, moi, je sais qu'on te voit, on peut venir à la boutique et te voir en train de mettre des passementeries, etc. sur des sièges. Ça, enfin, voilà, on voit quand même aussi un peu l'envers du décor. Oui. On voit les tissus sur les tables, etc. C'est un peu comme un atelier aussi. Oui. C'est peut-être dans cet esprit-là que je te posais la question.
En fait, le magasin, c'est à moitié un magasin, à moitié un atelier. Du coup, il y a un peu de Capharnaüm et j'entends très souvent c'est la caverne d'Ali Baba ici. 99 fois sur 100, c'est dit comme un compliment. Voilà. Donc bon, je le prends bien, c'est dit comme un compliment, c'est vraiment la caverne d'Ali Baba, parce que effectivement on trouve plein de choses, il y a tellement de tissus, tellement de tringles à rideaux, tellement de choix, c'est tellement varié que oui, et puis les gens aiment bien les tissus, c'est quand même quelque chose de très très, je sais pas, j'allais dire sensuel, c'est très agréable, c'est il est rare que les gens choisissent des rideaux sans toucher au tissu, quoi, sans l'apprécier avec la main, quoi. Et donc, oui, on était parti sur le fait qu'on pouvait me voir travailler. Bien sûr, il faut. Tout ne peut pas être fait localement, parce que dégarnir un siège, ça fait beaucoup de poussière. Voilà, après, le compresseur, quand on regarnit, ça fait du bruit, mais il n'y a pas toujours du monde. Donc, il y a rarement du monde dans le magasin. C'est une, deux, trois personnes, le samedi un peu plus, mais... Après, il faut que je m'occupe de tout le monde en même temps, c'est un peu compliqué. Ouais. Mais ça marche.
D'accord. Pour terminer, j'avais une dernière question qui me vient là. Est-ce que l'ameublement, le design scandinave, c'est le futur classique, au même titre que le Louis XV? Est-ce que tu penses que dans plusieurs années, on viendra regarnir des canapés?
Non.
Ou...
Non, sûrement pas. Fini, ils sont même ça. Pas prévus. Ils sont... Ben, c'est fini tout ça. Il n'y a pas d'affect avec un canapé IKEA. On est bien dedans, machin. Le jour où le jour où ça va plus, on le bazarde.
Est-ce qu'on est condamné à regagner du Louis XVI, par exemple, ou
Oui, c'est prévu. Enfin, condamné.
Je parle de nouvelles créations.
C'est pas une condamnation. Il ouais. faut pas utiliser ce terme-là. Mais on est condamné à jeter de l'IKEA. C'est pas fait pour être regarni et c'est fait pour être pas cher. Pour pouvoir être jeté rapidement. Et si on veut jeter rapidement, comme on nous dit que c'est ça le vrai pied, c'est de jeter vite, mais si on jette, si on sait qu'on va jeter dans 2, 3, 5 ans, ça veut dire qu'on va pas mettre cher. Donc il faut acheter vraiment pas cher pour pas avoir mal au cœur quand on baigne. Et du coup, oui, les sièges qui sont de bonne qualité, ce sont des sièges de style, et en tout cas des sièges de bonne qualité. Alors, les sièges des designers, C'est les ça, en fait, je voulais dire, Charles voilà. Hems, ouais. Etc. Les sièges de designer, c'est de la bonne qualité. On peut les refaire.
Ouais.
On peut les démonter et on peut les refaire. Mais les sièges de grande surface sont faits pour être jetés. Il y a des parties qui sont faites pour être, c'est pas démontable. Et voilà quoi. Et c'est, il faut pas les refaire puisque eux veulent qu'on les jette pour pouvoir en racheter des neufs. Et voilà. Donc, oui, on est condamné.
Moi, je voulais savoir, est-ce que les derniers vraiment classiques, on voit souvent ça. Hein,
c'est toujours...
Voilà, parce que maintenant, tu parles de. Voilà, on va parler de meubles contemporains. Ouais. Donc là, tu parles de meubles de designer, mais après, ouais. C'est des choses qui partent dans tous les sens. Alors que le meuble, le siège Louis XV ou Louis XVI, c'est quelque chose de marqué visuellement, on le reconnaît tout de suite.
Oui.
Est-ce que c'est le dernier.
C'est
on va
une
dire,
époque.
Voilà.
C'est une époque et elle est révolue au niveau de la création.
Mm-hmm.
Maintenant. Les styles changent.
Après, il y a quelques classiques qui reviennent de l'époque moderne. Tu parles de sièges en rotin, etc. Tout à l'heure, c'est des choses voilà qui sont très marquées. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on va se disperser? Il y aura plus vraiment de meubles.
Il y aura plus de style. Plus le style 2020 et le style Macron. Il y avait Louis XV, Louis XVI, Napoléon, Louis-Philippe, etc. C'est après qu'on le sait.
D'accord. Il est trop tôt pour le dire.
C'est après.
Qui
ira
verra.
C'est ça. C'est, voilà. Voilà. Voilà.
Très bien.
Et on verra si un jour quelque chose qui mais on n'a plus dans nos salons tous les mêmes sièges de cette année, quoi. Ou de cette décennie. Mm-hmm. Ou alors c'est le tout venant des grandes surfaces.
C'est ça. Bah écoute, Jacques, merci beaucoup.
Merci, Miguel.
Bonne continuation. Le site internet décor-maison.fr.
C'est toujours
voilà,
ça.
Voilà, à Compiègne. Et voilà, tout est dit.
Ben, merci d'être venu.
Ben, de rien, merci pour
merci
ton accueil.
Cette visite.
Allez, à bientôt.
À bientôt.